qu'il sait très bien que c'est dangereux. Sauf s'il sait qu'il peut y avoir un danger. Et s'il veut aller le plus loin possible dans la charité. Ce serait de la perfection de la charité. Parce qu'il en prendrait l'initiative. Alors ça serait la perfection de la charité. Que Saint-Esprit lui demanderait. Mais au niveau strictement de la charité, non, il n'est pas obligé de susciter une rencontre. Mais il faut que, dans son âme, si la rencontre se fait en dehors de lui, il soit prêt à l'aider s'il est dans la nécessité. Alors, première difficulté, il semble que la charité n'impose pas d'aimer ses ennemis. Saint Augustin dit en effet, ce bien éminent, c'est-à-dire l'amour des ennemis, ne se rencontre pas en tous ceux que nous croyons exaucés lorsqu'ils disent dans leur prière, pardonnez-nous nos offenses, car les péchés ne sont remis à personne sans la charité, car il est écrit au proverbe, la charité couvre tous les péchés. Il n'est donc pas de nécessité de charité d'aimer ses ennemis. Donc saint Thomas a donné la réponse. Alors, deuxième objection. La charité ne détruit pas la nature. Or, toute chose, même l'être dépourvu de raison, est naturellement son contraire. Ainsi, le loup déteste l'agneau, et l'eau, le feu. La charité ne fait donc pas que nous aimions nos ennemis. Réponse. Toute chose est naturellement son contraire en tant que tel. Or nos ennemis nous sont contraires en tant qu'ennemis. Nous devons donc les haïr comme tels. Qu'ils soient en effet nos ennemis ne peut que nous déplaire. Mais ils ne sont pas contraires comme hommes, comme capables de la béatitude. Et de ce point de vue, nous devons les aimer. Alors, troisième objection, la charité ne fait rien de mal. Or, il est aussi mal, semble-t-il, d'aimer ses ennemis que de haïr ses amis. D'où ce reproche adressé par Joab à David, « Tu aimes ceux qui te haïssent et tu détestes ceux qui t'aiment. » Par conséquent, la charité ne fait pas que l'on aime ses ennemis. Aimer ses ennemis en tant qu'ennemis est chose blâmable. Mais ce n'est pas là ce que fait la charité, comme il était dit. Donc, voyez bien la réponse de saint Thomas. C'est assez complexe. C'est pas si simple. Alors, si vous avez des questions, il faut les poser.
Sur le cas de perfection de la charité, dans votre exemple que vous avez donné, quand vous défendrez l'ennemi en disant non, après tout, quand l'autre commence à lui blâmer, et vous direz pour le défendre.
Mais oui, qu'il a des qualités, qu'il a des choses comme ça. Mais faites attention, il faut là tout le contexte, hein, voyez. Parce que si on parle qu'il faut. Il faut être attentif à telle chose, il faut de la prudence, il faut des choses comme ça, vous voyez. Des cas très très particuliers, mais on est tout le temps dans des choses comme ça. Il y a la prudence qui peut se dire, je ne dirai rien, parce qu'au fond, je ne suis pas chargé de ça. Je ne suis pas responsable, donc je me tais. Si on vous demande, vous verrez. Parce que vous voyez, le cas par exemple, c'est le cas, je prends ce cas-là, c'est des cas qui se retrouvent tout le temps. Quelqu'un qui peut avoir une vie double. Donc, être un peu sous certains points, si vous voulez, vraiment vicieux, et qui pourtant, on ne voit pas, on ne le sait pas. Bon, on lui confiera une charge importante au point de vue enseignement, au point de vue responsabilité vis-à-vis d'enfants. Vous n'avez pas le droit, si vous le savez, de laisser, vous voyez, un danger comme ça. Donc vous êtes bien obligé, là, à ce moment-là, si certains disent attention, n'allez pas faire le plaidoyer pour lui, vous seriez responsable. Oui. S'il n'y a personne qui est engagé et qu'on fait uniquement un mal, qu'on rapporte uniquement le mal d'une personne, alors là c'est très différent. Vous dites, oui, mais au fond, regardez quand même tous les efforts que vous êtes personne, ou bien remarquez ses qualités. Vous voyez, on peut aider. On peut dire ça. Et c'est la perfection de la charité, ça. S'il est votre ennemi. Parce que s'il est votre ennemi, instinctivement, hein, vous en ajoutez. Si on sait jamais, c'est instinctif, ça. S'il est votre ami, par exemple, vous le direz. Mais si votre ennemi, hein, c'est l'ennemi qu'on regarde ici. C'est la situation à l'égard de l'ennemi. Alors, à l'égard d'un ennemi, quelqu'un qu'on sait qui est un ennemi, mais d'autre part, on sait très bien qu'il est un ennemi et qu'il a de très gros défauts, qu'il peut faire beaucoup de mal. J'ai pas à le pousser en avant, prudentiellement, si je sais qu'il peut faire du mal. Oui. Donc la perfection de charité, là, ne consiste pas à dire toujours du bien d'un ennemi, parce que non, il faut faire attention aux circonstances. Tout le monde est d'accord avec les trois distinctions de Saint-Thomas. C'est ce que vous respectez. N'est-ce pas ? Préparatio animi. Rappelez-vous ça. Proche dans la préparation de l'âme, être prêt à aider un ennemi. À aider un ennemi. Il faut que ça aille jusque-là. L'amour de charité doit brûler notre cœur de façon telle que on doit être nécessité, hein, comprenez bien, nécessité. Si ce n'est pas une nécessité, que vous êtes pris par exemple devant un choix, aidez plutôt quelqu'un qui est proche de vous. Je crois. Il ne faut pas prendre ce petit raisonnement que de temps en temps on prend, vous savez, c'est plus difficile pour moi d'aider un ennemi, donc je vais l'aider. Non, il ne faut pas prendre ce qui est le plus difficile. Il faut prendre là où l'exercice de la charité sera plus parfait. Oui, on voit très bien ce raisonnement que certains peuvent faire. Saint Thomas souligne préparation animi en cas de nécessité. Il faut être prêt en cas de nécessité. Quelqu'un aurait besoin de nous, mais pas normalement. On choisit d'aider d'abord ses amis avant d'aider ses ennemis. Mais si un ennemi a besoin de nous, qu'il est en cas de nécessité, il faut que dans notre cœur nous soyons prêts à l'aider. Oui. Les ennemis. Oui, oui. D'aimer ceux qui nous humilient.
Aimer l'humiliation comme une voie d'aller au Christ.
Oui, mais aimer l'humiliation, c'est par rapport à quelqu'un. Faites attention, hein, nous sommes dans les liens de charité. Donc nous parlons du prochain. Ce prochain peut être un ami, ce prochain peut être un ennemi. Oui. À l'égard d'un homme, c'est pas à l'égard de moyens, c'est deux choses différentes. Hein. À l'égard de moyens, alors c'est différent. Là, c'est l'aspect de l'ordre de la prudence et de la sagesse. Tandis qu'ici, on a affaire directement à l'exercice de la charité. Et l'exercice de la charité, nous l'avons vu, ici, regarde le prochain. Ce prochain peut être un ennemi. Je sais pas si je réponds bien à votre question, parce que peut-être que je ne vois pas assez. Si vous aviez le texte. Vous pourriez expliciter.
Parce que pour Sylvain, quand même, ce qui est caractéristique de moi, du chrétien, c'est l'amour des ennemis comme la perfection même de l'amour chrétien.
Oui, oui.
L'amour de l'ennemi pour le moine, c'est en fait c'est aimer tout ce qui le conforme de plus en plus à la croix et à la passion.
Oui, oui, je vois. C'est les degrés du mille, oui, c'est ça. C'est les fameux degrés d'humilité de Saint Benoît. Vous voyez, ça retrouve là la même chose. Enfin, c'est très. Alors, je crois qu'il y a deux choses différentes. Hein. Peut-être pas. Vous voyez, c'est comme toujours. Hein. Saint Thomas nous donne ici un traité de la charité pour essayer de voir où s'étend la charité. Sylvain prend, lui, le point de vue pratique. Quand vous êtes dans telle ou telle situation, prenez cette situation. Là, vous irez plus vite à la sainteté. Vous voyez ? Ça ne me semble pas tout à fait la même chose. Sylvain prendra beaucoup plus l'aspect de la prudence éclairée par la foi sous la mouvance de la charité, tandis que saint Thomas, lui, ici, est dans une perspective d'étudier où s'étend la charité et où il y a nécessité pour la charité de s'exercer. et où la charité n'est pas obligée de s'exercer. Oui, c'est un peu différent. C'est du reste normal, puisque d'un côté, c'est beaucoup plus le point de vue pratique, immédiatement, de la voie qu'on considère comme la voie qui mène à la sainteté. Et ici, saint Thomas est à un niveau beaucoup plus d'études scientifiques. Oui, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas du tout de contradiction. C'est deux plans différents. Oui, et moi je dirais il n'y a pas de contradiction parce que, au fond, Silouane prend lui que le moine qui tend vers la sainteté doit toujours aller là où la charité va s'exercer de la manière la plus éminente qui soit. Or, la charité s'exerce d'une façon éminente quand il s'agit d'aimer ses ennemis. Non pas en tant qu'ennemis, mais en tant qu'hommes à qui nous pouvons les aider. Vous voyez ? Donc ça rejoindrait. Avec la différence, c'est que Silouane se place dans la perspective du moine qui cherche qui essaie de prendre les voies de plus grande sainteté. Oui ?
Quand vous dites alors que la plus grande charité à aimer son ami, à choisir son ami, d'aider son ami plutôt que d'aider son ami.
Ça dépend. Non, voyez, je dis, tout dépend, c'est pour ça que c'est très difficile, on est dans des cas particuliers, venez, dans un cas particulier où vraiment vous pourrez exercer une plus grande charité en rendant un service à un ennemi. Si vous êtes tout entière tendu vers la sainteté, vous choisirez ça. Si la prudence, éclairée par la foi, vous montre que c'est bien ça que vous devez faire. Oui. Mais ce que je voulais dire avant, c'est que nous ne devons pas chercher en premier lieu ce qui est plus difficile, mais là où il n'y a plus de charité. C'est deux choses différentes, vous voyez. Mais il peut se faire que dans certains cas, c'est là où c'est le plus difficile que la charité sera le plus éminente. C'est que ça sera de la manière la plus parfaite. Mais ce n'est pas toujours. Donc ce n'est pas ça qui doit régler notre conduite. Vous voyez, quand on dit qu'il faut toujours choisir ce qui est le plus difficile... C'est dit ça dans certaines choses pratiques. Hein. On le dit de temps en temps dans certaines choses pratiques. Il faut toujours choisir ce qui est le plus difficile. Bien, je dirais, faisons attention. Mettons un bémol. Faisons attention. C'est très vrai que dans la plupart des cas, choisir ce qui est le plus difficile obligera de nous un acte plus héroïque d'amour. C'est vrai. Mais ne le prenons pas comme principe. Parce qu'on ira à la catastrophe. C'est pas un principe. Le principe, c'est dire on doit choisir toujours là où l'exercice de la charité est le plus éminent. Oui, c'est pas la même chose. Vous voyez la différence ou pas? Non? Qu'est-ce qu'il y a?
Je la vois peu, la différence.
Vous la voyez?
Peu.
C'est la question du motif, la question de la finalité. Vous choisissez prudemment là, normalement, dans votre vie divine, dans votre recherche de la sainteté, là où l'exercice de la charité est le plus parfait. Vous êtes d'accord, ça? Ça, c'est le principe. Vous voyez? Bon. De temps en temps, vous voyez que ce principe est changé par une maxime qui n'est pas un principe. Choisis toujours ce qui est le plus difficile. Oui. Alors je dirais, attention, c'est une maxime, c'est pas un principe. Que la plupart du temps, quand vous choisissez ce qui est le plus difficile, exige de vous un effort plus grand de charité, compte chez deux. C'est vrai. Mais c'est pas toujours vrai. Et donc je peux pas l'établir comme un principe. Oui. C'est là où la théologie rectifie. Elle rectifie ce qu'on pourrait considérer comme très facilement, cette maxime deviendra un principe. On a tous vu des gens comme ça, et puis qui se cassent la tête. Littéralement, c'est pas tout à fait évangélique. Ce qui est évangélique, c'est d'aimer le plus possible. Oui. Alors, il y a une générosité très grande à faire toujours ce qui est le plus difficile. Mais la générosité, c'est pas toujours la charité. Oui. Là, vous voyez la petite différence.
Même subtilement devenir de l'amour de soi.
Car, oui, très subtilement, on se rejoint encore. Et on cherche, on a un contentement de prendre la situation héroïque la plus difficile. Alors qu'on doit chercher là où il n'y a plus d'amour. Et s'il n'y a pas de précepte net, hein, s'il y a une obéissance, c'est très simple. On n'a qu'à obéir. Et vous voyez, quelquefois, il y a des gens comme ça qui cherchent tellement la perfection que dans l'obéissance, on dit « faites ça, oui, vaut mieux. Vous êtes un peu fatigué, faites ça. Ah non, je vais faire ce qui est plus héroïque, c'est plus difficile. » Non, obéissez. Oui. Et on voit très bien l'attachement qu'on peut avoir à ça. Un moyen difficile. Oui. Et on doit être d'autant plus attentif qu'on cherche plus la sainteté. Parce que on ne doit pas faire ces confusions. Et la confusion entre... Au fond, c'est un aspect objectif et un aspect subjectif, je dirais. Parce que la difficulté est toujours du côté subjectif. Et la plus grande amour est toujours du côté objectif. Vous voyez ? Alors, c'est vrai que dans l'ordre pratique, l'aspect subjectif revient très vite. Mais il faut faire attention pour rester dans la perspective contemplative, mais qui implique le point de vue de l'objectivité. Ah, il peut y avoir des petits cas de conscience où on ne voit pas qu'on se fasse éclairer. On doit demander conseil, on doit dire comme ça, pour essayer de comprendre. C'est la prudence qui doit nous conduire là. Bon.
Est-ce qu'il serait juste de s'opposer à un ennemi devant un tiers, parce que, je ne sais pas, ça peut être un ennemi politique, puisqu'il y a le bien commun qui est en jeu, et d'homme à homme, ensuite, de chercher à provoquer son amitié. Est-ce que c'est juste ?
L'autre jour, on m'a raconté cette petite histoire. C'était un garçon qui faisait de l'exercice que je connais bien, un garçon qui a 20 ans, qui faisait sa course le matin, dans la boule. Et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un type qui filait toute vitesse, un autre garçon de 20 ans, qui filait avec une voiture assez puissante. Lui, il prenait l'endroit où il pouvait passer, si vous voulez. Il y a eu un moment d'hésitation quand il a vu la voiture arriver, et puis le type l'a pris de façon telle qu'il l'a projeté 10 mètres au-dessus, il est retombé, le pauvre type était complètement... Un garçon qui a été chopé. C'est miraculeux parce qu'il soit sauvé. C'est miraculeux parce qu'il est sauvé, parce qu'au même moment, une autre voiture arrivait avec un médecin dedans. Il arrive, il a eu immédiatement ses soins. Bon. Autrement, je crois qu'il était perdu. Alors, vous voyez l'histoire. Il a été donc en... J'ai connu toute l'histoire parce que je connais bien la famille. Et on a prié pour ça. C'est... À un moment donné, on a cru qu'on avait l'amputé. À 20 ans, vous voyez ce que ça représente. Il avait... Tout son corps était contusionné, était blessé partout. Je ne sais pas le nombre de blessures, mais c'est invraisemblable. Il arrive à s'en tirer. Au bout d'un mois qu'il était mort, entre la vie et la mort, le garçon qui avait fait ça, qui avait conduit, parce que là, il a eu le courage, hein. Il n'a rien accusé. Il a dit au type, je ne dis rien, il n'y a pas de témoin. Je raconte une histoire. Il a raconté une histoire. Il a sauvé le garçon. Il avait fait ça. C'est assez ironique de sa part. Hein. Bon, et l'autre est arrivé, le cherchant, il cherchait, il voulait le trouver. Il l'a trouvé dans sa chambre. Alors, on l'a annoncé. Et l'autre a dit, entre garçon, je te dis, alors il a dit le terme le plus fort qu'il pouvait lui dire, n'est-ce pas ? Et puis il a dit, mais je suis chrétien, alors je t'aime. Tu prendrais. Alors, vous voyez, on voyait la lutte de ces deux jeunes qui, à un moment donné, s'étaient rencontrés. Et, c'est évident. Ce que tu as fait, c'est vraiment... Et puis, il lui a dit après, la réaction chrétienne, je trouvais ça très beau. Mais le réalisme qui restait, il faut quand même dire aux gens qui se sont conduits comme des imbéciles, comme pire que des imbéciles, comme des criminels. C'est un crime. Sans le vouloir, il ne voulait sûrement pas attention, mais il y avait un manque de prudence de la part d'aller si vite. Et au fond, c'était criminel, tu as tué quelqu'un, quoi. Mais tu peux entrer. Ils ont parlé pendant une heure. crois qu'il y a ces distinctions-là, ce sont des distinctions réelles. Un ennemi reste un ennemi. Celui qui vous a tué, celui qui vient tout, qui aurait pu être là, c'est un ennemi, c'est évident. Même si l'intention n'y était pas, il a agi en ennemi. Mais un homme qui... Alors, on doit, si on peut lui dire, et dans certaines circonstances, on peut lui dire, c'était son droit de pouvoir le dire, et en même temps, immédiatement, dire, mais je suis chrétien. En tant que chrétien, je t'aime. Donc j'aime en toi celui qui est enfant de Dieu. Oui.
Est-ce que c'est une attitude seulement chrétienne?
Ah oui.
Est-ce que ce n'est pas une attitude philosophique? En tant que...
Vous savez, le structuralisme, je n'ai pas vérifié, le structuralisme, l'exégèse structuraliste, j'ai entendu ça à Jérusalem par quelqu'un qui faisait beaucoup d'exégèse structuraliste, ça m'intéressait de voir ce qu'il pensait. Il m'a dit, dans une exégèse structuraliste de l'Évangile, il n'y a qu'une seule affirmation du Christ qui est originale. Aimez vos ennemis. Ça ne nulle part ailleurs vous trouver. Oui. Et ça, c'est vrai. J'ai trouvé ça beau. Hein. Je trouve que c'est assez beau. Oui. Dans une exégèse structuraliste, toutes les autres affirmations peuvent se trouver. Et c'est vrai d'une certaine manière. Parce que même la très sainte Trinité, voyons, on peut encore arriver à trouver philosophiquement des choses. Mais dans une perspective structuraliste. Dans une perspective structuraliste, la seule originalité de l'Évangile, c'est aimer vos ennemis.
Et la croix.
Je vous ai dit.
Quoi ?
Et la croix.
Mais la croix est liée à ça. Mais la croix, vous voyez, la croix dans son interprétation chrétienne, parce qu'on peut encore dire être rejeté, tout ça, il y a encore eu des gens qui ont voulu, dans son interprétation chrétienne, aimer ses ennemis.
Mais même dans le sens de. Par exemple, la clémence en temps de guerre, c'est-à-dire on ne massacre pas absolument toutes les populations ennemies. Non, et ce que je veux dire, c'est on pourrait aimer philosophiquement soi-même à travers l'espèce humaine.
Tout à fait, la philanthropie.
Oui, c'est ça.
Une philanthropie. Mais la philanthropie, vous voyez, reste générale. Elle n'est pas individuelle. Alors, il y a un amour général vis-à-vis de l'humanité, c'est très vrai, qui va contre le sadisme. Le sadisme est condamné par le philosophe, c'est évident. Et qui fait qu'on doit même, chose, arriver à aimer. Mais pouvoir individuellement aimer vos ennemis, on est perfection par le bêtise. C'est la charité qui est la façon. Vous ne pourriez jamais exiger ça d'un homme. Uniquement au niveau humain. Alors, il y aura l'article 9 qui va... Mais je ne le fais pas maintenant, puisque c'est l'heure.
14 février 1983, troisième conférence.
Alors, je continue de revoir tout ce que la charité doit regarder et aimer. On peut aller assez vite, du reste, une fois qu'on a compris... On voit bien, mais c'est quand même beau. C'est quand même beau de voir comment la charité ramène tout ce qu'elle peut ramener. Et c'est là qu'il faut voir le caractère magnanime de la charité. Hein. Donc, article 9, est-il nécessaire à la charité que l'on donne à un ennemi des marques extérieures et des preuves d'amour ? À propos de cette parole du Seigneur en Saint Matthieu, faites du bien à ceux qui vous haïssent. La glose dit, faire du bien à ses ennemis est le comble de la perfection. Cumulus, hein, perfectionniste, c'est le cumulus. Ça c'est la glose, c'est pas le langage de Saint Thomas, le cumulus. Cumulus perfectionniste. Faire du bien à ses ennemis est le comble de la perfection. Mais ce qui relève de la perfection de la charité n'est pas de nécessité pour cette vertu, Donc la charité n'exige pas nécessairement que l'on témoigne à ses ennemis par des signes et par des actes d'amour que l'on a pour eux. Voici le raisonnement de saint Thomas. Les effets et les marques de la charité procèdent de charité intérieure et lui sont proportionnés. Or, l'amour intérieur envers les ennemis, en général, est de nécessité absolue de précepte, tandis que l'amour pour un ennemi en particulier ne l'est pas absolument, mais seulement comme disposition de l'âme, préparatio animi. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il faut donc en dire autant des actes et des témoignages d'affection manifestés à l'extérieur. Vous voyez le raisonnement théologique de saint Thomas, c'est très bon. Les gestes extérieurs doivent correspondre à l'intérieur. Donc c'est par rapport à l'acte intérieur que nous allons essayer de comprendre s'il faut faire des gestes extérieurs à ses ennemis. Quand vous les voyez, vous leur faites un petit geste d'affection. Est-ce que tu vas bien, ou au contraire, vous passez sans rien dire. Il y a en effet des bienfaisances et des marques d'amour que l'on doit donner à son prochain en général. Par exemple, en priant pour tous les fidèles ou pour tout le peuple, ou bien encore en procurant quelques bienfaits à toute une communauté. Être ainsi bienfaisant ou témoigner ainsi l'amour à des ennemis est de nécessité de précepte. Si l'on s'y refusait, ce serait agir par vengeance. Et à l'encontre de ces paroles du Lévitique, tu ne chercheras pas la vengeance, tu ne te souviendras pas des injures des enfants de ton peuple. Mais il y a d'autres bienfaits ou d'autres témoignages d'affection que l'on n'accorde qu'à certaines personnes en particulier. Se comporter ainsi à l'égard de ses ennemis n'est pas de nécessité de salut, sinon quant à la préparation de l'âme, de telle sorte que l'on soit disposé à leur venir en aide en cas de nécessité, selon cette parole des proverbes, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Maintenant, qu'en dehors du cas de nécessité, quelqu'un ait des bienfaits de ce genre pour des ennemis, cela relève de la perfection de la charité, qui, non contente de ne pas se laisser vaincre par le mal, ce qui est de nécessité, veut encore vaincre le mal par le bien, ce qui est de perfection. Non seulement alors on craint de se laisser entraîner à la haine à cause d'une injure, mais encore on s'efforce, en faisant du bien à son ennemi, de se faire aimer de lui. Toutes les difficultés qui ont été proposées tombent par le fait même. On aurait dû les lire avant. C'est pas la peine, donc c'est très simple. Et vous voyez que dans la pratique, c'est pas si commode. Hein. Parce qu'au fond, il y a la marge entre les deux, donne saint Thomas. La marge, ce qui est de nécessité de précepte, et ce qui est le cumulus, la perfection de charité. Et au fond, c'est toujours là-dessus que joue. Alors ça, c'est très important de comprendre qu'il y a des choses qu'on n'est pas obligé de faire. Il ne faut pas s'efforcer si on n'a pas la grâce. On ferait pire que mieux. Donc il ne faut pas s'efforcer. Hein, je me souviendrai toute ma vie, je crois que je l'ai déjà dit, cette expérience d'un religieux qui avait été humilié, mais profondément, par son supérieur, par son provincial. J'avais assisté à la chose. Le provincial avait été fort, hein, une douche d'eau froide, très très fort devant tout le monde. Ce bon religieux, qui était un saint homme, a passé sa nuit en prière, je crois, pour ne pas se mettre à se révolter. Puis le Seigneur lui a donné la grâce de tout pardonner. Le lendemain matin, il rencontre son provincial, il se jette dans ses bras, il dit « Merci Père de m'avoir dit tout ce que vous m'avez dit hier ». Le provincial l'a cru complètement cinglé. Il s'est fâché de nouveau contre lui. Parce que lui n'avait pas passé sa nuit en prière. Vous voyez, je crois que c'est très important de faire attention à ces choses-là. On ne doit pas nécessairement manifester, c'était pas un ennemi, hein, c'était un. Mais au moment où il l'avait puni, il avait un peu exagéré. Hein. Il l'avait outrepassé. C'était nettement. C'était pas du tout un père, c'était pas du tout un père qui parle, qui... Non, c'était quelqu'un qui était de mauvaise humeur, qui était fâché, qui avait très peur de... On voyait très très bien. C'était visible. Si c'était un père, l'autre l'embrassant, il aurait été heureux. Mais l'autre l'embrassant le lendemain matin, et comme c'était pas uniquement le père qui avait corrigé, et que c'était le supérieur qui avait corrigé et qui avait un peu exagéré dans son autorité, il était furieux de voir que l'autre, ah oui, il le dépassait, enfin. Il le dépassait franchement, dans cette espèce de pardon qu'il faisait. Alors, vous voyez, je crois que c'est toujours très délicat, les gestes extérieurs par rapport aux ennemis. Pour connaître un tout petit peu. Quand on a vraiment affaire à quelqu'un qui veut de la haine pour vous, ça arrive, hein. Ou une jalousie sacrée, une jalousie effrayante qui essaie par tous les moyens de vous humilier, par tous les moyens de vous rejeter. Alors si vous allez au-devant en lui disant merci d'être comme ça pour moi, ça me produit, ça m'aide à être saint, vous voyez, ça m'oblige. C'est la parole de saint Thomas, enfin, pour qu'il y ait des martyrs, il faut qu'il y ait des bourreaux. Alors ça veut dire ça, vous êtes pour moi un bourreau et grâce à vous, vous voyez, je peux être un martyr. Alors à ce moment-là, c'est un petit peu dangereux. Donc il y a toute une question de prudence. Comme d'une façon générale, les gestes extérieurs. Mais saint Thomas n'en parle pas là, hein. Ce serait par rapport à la vie commune. Saint Thomas parle là uniquement, toujours en théologie, théologie scientifique, donc il montre bien ce qui est nécessité de précepte et ce qui n'est pas nécessité de précepte par rapport à la charité. Mais alors, entre deux, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que dès que vous êtes en face de gestes extérieurs, la prudence joue. C'est plus uniquement la charité, surtout en vie commune. Alors la prudence peut donner d'autres principes, hein. D'autres principes. Vous connaissez le caractère de votre de celui qui vous a humilié, de votre ennemi, alors faites attention. Parce que vous risquez de faire pire. Article 10. Devons-nous en charité aimer les anges? Alors ça c'est angélique. Après les ennemis, nous passons aux anges. Ça, c'est... Alors devons-nous en charité aimer les démons?
C'est après,
c'est d'abord les anges. C'est d'abord les bons anges. Les bons anges, c'est le prochain. Les démons, c'est l'ennemi. Alors, cependant, saint Augustin dit, s'il faut entendre par le prochain, celui envers lequel nous avons à nous acquitter des devoirs de miséricorde, ou bien encore celui qui remplit ses devoirs de miséricorde envers nous, il est évident que le précepte d'aimer notre prochain s'applique aussi aux anges dont nous recevons tant de bons offices. Ce sont des bienfaiteurs. Quand nous prions pour nos bienfaiteurs, nous prions pour les anges. Alors saint Thomas conclut. L'amitié de la charité, on l'a vu, est fondée sur la communication de la béatitude. Est fondée sur la communication de la béatitude éternelle, à laquelle les hommes participent avec les anges. Selon cette parole de saint Matthieu, à la résurrection, les hommes seront comme des anges dans le ciel. Il est donc manifeste que l'amitié de charité s'étend aussi avec les anges. Donc ça, c'est très facile à comprendre. La communauté ecclésiale implique les anges. La communauté de charité implique les anges. Les anges font partie du prochain. C'est notre prochain. Alors n'oubliez pas pour l'ange gardien. C'est un prochain qu'on doit aimer de charité. Alors, je regarde tout de suite la seconde objection. Les animaux sans raison sont plus proches de nous que les anges. Là, c'est le grognon qui dit ça. Car nous sommes dans le même genre prochain que les animaux. Vous voyez où la logique peut conduire? On m'a dit de la charité. Or, on l'a vu, nous n'aimons pas les animaux de charité. Donc, nous ne devons pas non plus aimer les anges de charité. Réponse. Les animaux, sans raison, appartiennent au même genre prochain que nous, par la nature sensitive. Mais ce n'est point selon cette nature que nous participons à la béatitude éternelle, mais par l'âme raisonnable qui nous met en communication avec les anges. Donc les animaux peuvent être des rivaux des anges, vous voyez, c'est ça que ça veut dire. On peut considérer que les animaux sont plus proches de nous. Et ça arrive, ça. Vous savez bien, celui qui fréquente un petit chien ou un petit chat, au bout d'un certain temps, a le visage du petit chat ou du petit chien. On a tous vu ça. J'ai rarement vu ceux qui fréquentent les anges qui ont le visage angélique. C'est plus difficile. Alors on voit bien ce que saint Thomas souligne ici. C'est quand même très important. Alors, la troisième objection. Vivre ensemble, dit Aristote, est ce qui convient le plus proprement à des amis. Or, les anges ne vivent pas avec nous. Nous ne pouvons pas même les voir. Nous sommes donc incapables d'avoir pour eux de l'amitié de charité. Réponse de saint Thomas. Les anges n'entretiennent pas avec nous ces rapports extérieurs qui résultent de la nature sensitive. Cependant, nous communiquons avec eux par l'esprit, imparfaitement en cette vie, mais de manière parfaite au ciel. Devons-nous aimer les démons en charité?
Ça, c'est pour les. Est-ce qu'on est plus près des anges que des animaux?
Ça veut dire? Oui, on est plus près des anges. Oui. Beaucoup plus. Par la charité. Par notre nature, il y a des complicités plus grandes avec les animaux. Il n'y a pas de complicité avec les anges par la nature. Parce que les anges, du reste, par nature, sont des solitaires. Il n'y a pas de communion angélique au niveau naturel. Les anges sont tous des solitaires. Alors, il y a une communion angélique, il y a une église angélique au niveau de la grâce. Et par la grâce, nous sommes en communion avec eux. Donc, je crois qu'il faut bien discerner. Donc, psychologiquement, dirions-nous, les animaux sont plus proches de nous que les anges. Alors ça, psychologiquement, sûrement. Les animaux sont plus proches de nous que les anges. Mais divinement, par le point de vue de la charité, les anges sont plus proches de nous que les animaux. Oui. Oui.
Quels actes de charité peut donc poser à l'égard de...
Des anges? Quel acte de charité? C'est de les écouter. Être docile vis-à-vis d'eux, n'est-ce pas? On sait que notre ange gardien nous garde. Vous voyez, quel acte de charité faites-vous à l'égard de quelqu'un qui est votre gardien? C'est de l'aimer et de l'écouter. Et de dire oui, tu peux toujours me donner conseil, je serai là pour écouter. C'est un acte de charité que nous faisons pour les anges. Nous disons aux anges que nous les aimons. Dire à l'ange gardien qu'on l'aime, ça doit se faire de temps en temps, ça. Vous voyez, le jour du pardon, on doit demander pardon aux anges gardiens. Vous n'avez pas remarqué qu'hier, on pardonnait aux anges gardiens après. On demande pardon aux anges gardiens parce qu'on leur a fait du mal. Puis moi, on leur a fait du mal. On ne les a pas écoutés assez. On n'a pas été vis-à-vis d'eux assez respectueux, assez aimants, assez attentif. Alors on leur demande pardon. Oui. Alors il doit y avoir ce pardon, hein, des anges. Oui. À la messe, on pardonne aux frères et aux vêpres, on pardonne aux anges. Alors c'est plus rapide. Parce que ça se fait intérieur. C'est intérieur. Devons-nous aimer les démons en charité? Isaïe dit, elle sera rompue votre alliance avec la mort. Votre pacte avec l'enfer ne tiendra pas. Or, c'est par la charité que se réalise la paix et l'accord parfait. Donc, nous ne devons pas avoir de charité pour les démons qui sont les habitants de l'enfer et les fauteurs de la mort. Comme on l'a dit plus haut, nous devons en vertu de la charité aimer dans les pécheurs leur nature, mais nous devons haïr leur péché. Or, le mot « démon » signifie une nature déformée par le péché. C'est pourquoi les démons ne doivent pas être aimés en charité. Mais si cessant d'argumenter à partir du mot, on se demande si ces esprits que l'on appelle démons doivent être aimés de charité. Il faut répondre en distinguant, selon ce qui a été établi précédemment, une double manière d'aimer une chose par charité. Premièrement, on peut l'aimer comme l'objet même vers lequel se porte notre amour. Dans ce sens, nous ne pouvons pas aimer ces esprits d'une amitié de charité, puisqu'il est l'essence de l'amitié de vouloir du bien à ses amis. Or, le bien éternel, objet de la charité, nous ne pouvons pas le vouloir à des esprits que Dieu a damnés pour l'éternité. Cela irait contre l'amour de Dieu qui nous fait apporter sa justice, qui nous fait approuver sa justice. C'est très beau cette fin, hein, pour ceux qui aujourd'hui comprennent difficilement. Deuxièmement, on peut aimer une chose dans ce sens que l'on veut qu'elle subsiste pour le bien d'une autre. De la sorte, nous aimons en vertu de la charité les créatures sans raison, en tant que nous voulons qu'elles demeurent pour la gloire de Dieu et pour l'utilité des hommes, ainsi qu'il a été dit plus haut, mais par rapport aux animaux. Nous pouvons aimer les animaux, c'était la manière de saint François, nous pouvons aimer les animaux en tant qu'ils peuvent glorifier Dieu. Alors nous les aimons en tant qu'ils glorifient Dieu, vous voyez. Les créatures sans raison, en tant que nous voulons qu'elles demeurent pour la gloire de Dieu et pour l'utilité des hommes. Ainsi qu'il a été dit plus haut. De cette manière, nous pouvons aussi, en vertu de la charité, on les met dans le même sac là, les animaux et les démons. Les bons anges et le prochain, les animaux et le démon. C'est extraordinaire ça, comme vision théologique. De cette manière, nous pouvons aussi, en vertu de la charité, aimer la nature des démons, en tant que nous voulons que ces esprits soient conservés dans leur bien de nature pour la gloire de Dieu. Dieu est glorifié à travers les démons, à travers la nature des démons. Oui, comme nous aimons le petit chien qui glorifie Dieu.
Oui. Il vient de dire que la nature était plus déformée.
Ah, elle est déformée, mais pas totalement déformée. Pas totalement. Le démon reste un ange. Mais un ange mauvais. Il reste un ange. Donc il garde son intelligence. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dialoguer avec eux. Parce qu'on est battu d'avance. Ils sont beaucoup plus intuitifs que nous. Ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Les démons savent à peu près quand reviendra le Christ. Ils le voient par les signes. C'est pour ça qu'ils sont si furieux. Parce qu'ils n'ont pas reçu le secret de savoir quand viendrait le Christ dans sa gloire. Mais ils savent que c'est mûr. Et c'est pour ça que l'Apocalypse nous dit que plus on s'approche, plus ils seront furieux. Parce que plus ils s'aperçoivent que les signes sont là pour montrer que le Christ reviendra dans sa gloire. Oui. Donc ils ont gardé leur intelligence, et leur intelligence est forte. Et c'est pour ça que certains voudraient faire des petits contrats avec les démons, pour connaître l'avenir. Parce que le démon connaît mieux l'avenir que nous. Il ne le connaît pas divinement, il le connaît préternaturellement. Vous voyez ? Il le connaît mieux. Et alors la malice du démon, c'est d'essayer qu'on s'intéresse à eux, qu'on s'arrête à eux, et qu'on fasse des petits contrats avec eux dans l'ordre de la connaissance.
C'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'intervention de Dieu dans le déroulement du temps.
Il ne connaît pas l'intervention miraculeuse de Dieu ou de Marie.
La providence.
La providence. Il connaît matériellement la providence par l'ordre naturel des choses. Oui. Alors il peut comprendre la destruction de la nature. Ce que nous avons beaucoup de peine à comprendre. Vous voyez, jusqu'où va la destruction de la nature actuellement par toutes les recherches scientifiques là, vous voyez, nous ne savons pas très bien. Eux savent. Ils voient beaucoup mieux. Ils peuvent comprendre que toutes les conséquences de certaines recherches qu'on fait aujourd'hui dans certains domaines. Nous ne savons pas jusqu'où ça va. Eux le savent. Parce qu'ils connaissent la nature. Ils ont une connaissance exhaustive de la nature. Une connaissance angélique, donc exhaustive, qui va beaucoup plus loin. Alors, regardons la première objection. Où semble-t-il ? Les anges, en effet, sont notre prochain, puisque nous sommes en communion avec eux par l'Esprit. Or, nous sommes aussi en communion avec les démons de cette façon. Car chez eux, chez ceux-ci, les dons naturels, à savoir l'être, la vie, l'intelligence, demeurent dans leur intégrité. Nous devons donc aimer les démons en charité. Réponse. L'esprit des anges n'est pas comme celui des démons dans l'impossibilité de posséder la vie éternelle. C'est pourquoi l'amitié de la charité qui est fondée sur la communauté de la vie éternelle plutôt que sur la communauté de nature a lieu à l'égard des anges et non pas à l'égard des démons, ce qu'on me dit. C'est la communauté à l'égard de la participation à la vie divine. Et alors c'est la même.